France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Masnassavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien et théoricien de la littérature aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée a choisi d'évoquer un roman dont vous connaissez, c'est sûr, l'auteur. Figure du milieu littéraire des années 60 jusqu'à sa mort il y a 2 ans, en 2023, écrivain, critique, éditeur, en 1983 était paru son roman « Femme » et voici comment il leur rendait hommage au micro de Jacques Chancel. Attention, piano sirupeux.
Vous avez écrit 570 pages sur les femmes.
Oui.
Vous pourriez, en une seule phrase, leur faire une déclaration.
La seule chose à leur dire aujourd'hui, c'est d'être farouchement individuel, de ne pas se laisser prendre aux gadgets que sont soit l'utilisation de leur image à tout instant, comme forme publicitaire, soit leur utilisation politique et idéologique, c'est-à-dire le fait de les assigner, de les obliger à représenter quelque chose qui s'appellerait la femme. Mon narrateur, à un moment donné, dit on a le don des femmes comme on a le don des langues.
Oui.
Je crois que chaque femme est différente de toutes les autres et qu'il n'y a pas lieu de les rassembler comme ça dans des mouvements. Une femme est différente de toutes les autres et c'est chaque fois une langue nouvelle.
Enfin, elles ne seront grandes que si elles sont ce que vous souhaitez qu'elles soient.
Non, je crois que chacune doit, avec son nom, doit être ce qu'elle veut être. C'est pas à moi de leur dire, elles n'ont qu'à inventer. Moi, je veux bien leur donner un coup de main en passant pour leur apprendre à rire et à s'amuser.
Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Moi aussi je vous accueille sur ce piano sirupeux, très début années 80. Enfin je sais pas trop en fait, un peu sitcom américain je dirais. Voilà. Vous êtes essayiste, critique et romancière. On vous doit plusieurs livres sur Saint-Simon, Andy Warhol, sur Guy Debord, une anthologie sur les écrivains et la drogue. Ça s'intitule Écrit stupéfiant. Mais c'est de Philippe Solers que vous avez choisi de parler. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il a eu une importance considérable dans ma vie de lectrice et dans ma vie d'écrivain. Dans ma vie de lectrice, parce qu'en fait, je l'ai découvert assez jeune, finalement. Et puis dans ma vie d'écrivain, puisqu'il est devenu mon éditeur, et je voulais qu'il devienne mon éditeur, donc on en parlera. Mais donc j'ai réussi mon coup, d'une certaine façon, j'étais très heureuse quand il a publié mon premier livre. En fait, quand j'ai découvert Solers, alors je lisais Le Monde quand j'étais jeune, c'était un peu bizarre, mais en fait, bon, nos professeurs nous disaient que c'était bien de lire les journaux, etc. Donc j'ai découvert Solers en 1980 quand il a publié Paradis, mais je n'ai évidemment pas lu Paradis à l'époque. Ce dont je me souviens, c'est que Paradis était un événement éditorial. Il faisait la une du Monde, par exemple, il y avait une page entière, et puis Le Monde, à l'époque, il n'y avait aucune image, aucune photo, tout était écrit tout petit, très serré, c'était vraiment un journal très sérieux, un peu très austère. Et donc j'ai découvert l'existence de ce type qui écrivait un livre complètement déponctué qui s'appelait Paradis, et qui défrayait la chronique avec ce livre. Bon, le temps a passé, et puis en 83, il a donc publié Femme, ce roman qui a aussi beaucoup défrayé la chronique. Et je me souviens qu'il y avait un battage terrible autour de ce livre. On en parlait beaucoup, c'était très polémique, il y avait beaucoup de pour, de contre. On accusait Solers d'être passé à l'ennemi, c'est-à-dire chez Gallimard, alors qu'avant il était au Seuil, où il faisait des choses assez expérimentales, modernes, enfin très théoriques. Et puis, donc j'étais un peu excité par ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre qui parlait à la fois de l'intelligentsia parisienne? Il y avait des personnages à clé, il parlait des femmes, il était accusé d'être misogyne, enfin bon. Et on disait que c'était un roman traditionnel, qu'il était passé, voilà, qu'il avait quitté une écriture expérimentale pour passer à une écriture, disons, bourgeoise, entre guillemets, plus traditionnelle. Et donc à l'époque, c'était un gros roman publié chez Gallimard en 83, donc j'avais 20 ans, et je me souviens que j'ai dit à ma mère, écoute, moi j'ai pas assez d'argent de poche pour m'acheter ce livre, il coûte quand même 90 francs. 90 francs, on se rend plus compte de ce que c'est à l'époque, mais c'est
vous
cher.
Avez l'édition d'ailleurs.
Oui, j'ai l'édition de 83, il y a écrit 90 francs. Et donc ma mère, qui connaissait pas Philippe Solers, qui n'avait pas lu elle-même, pour me faire plaisir, m'offre ce livre, et je pars en vacances, je me souviens, elle me l'offre, voilà, je l'ai un peu avant l'été, je pars en vacances avec ce livre. Et je le lis pendant l'été et je suis complètement stupéfaite parce que c'est pas du tout un livre qui correspond à l'écriture, une écriture classique, contrairement à ce que dit la presse quand elle dit « Solaire, c'est passé une écriture classique ». Pas du tout, ça ressemble plutôt à du Céline, mais du Céline pas Voyage au bout de la nuit, le Céline de la trilogie allemande, plutôt avec beaucoup les points de suspension, il y a une scansion, il y a une musique.
Il y a des points d'exclamation.
Il y a beaucoup de points d'exclamation, il y a beaucoup de trois points de suspension. Enfin, c'est une écriture percutante, percutée. Et puis, il n'y a pas vraiment d'intrigue, en fait. C'est pas un roman qui raconte une histoire. Et donc ça m'intéresse parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, je ne lis quasiment pas de littérature contemporaine.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, en fait. J'ai l'impression que le choc, il vient aussi d'une formation... vous avez eu une formation classique avec des structures assez identifiables, intrigues, voilà, la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, etc. Enfin, la structure schéma typique d'un récit. Et là, c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas.
Oui, et puis surtout, à l'âge que j'ai, 20 ans, j'ai fait effectivement des études plutôt classiques, j'adore la littérature, mais j'ai toute la bibliothèque à écumer, donc si vous voulez, j'ai lu Balzac, j'ai lu Zola, j'ai lu Céline, j'ai lu Proust, j'ai lu de la littérature.
À 20 ans, vous avez déjà lu tout ça ?
Oui, mais...
Oh là là, impressionnante.
Ouais, enfin, j'ai aucun mérite, parce que j'ai été longtemps fille unique, et puis...
Non, si mais vous... moi aussi, je suis fille unique, hein, vous savez.
Oui, mais vous êtes plus jeune, donc vous vous rendez pas compte qu'à l'époque, quand on s'ennuyait, il n'y avait rien d'autre à faire que lire.
Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu la télé.
J'avais pas la télé, j'avais pas le droit de voir la télé, bon, donc j'étais enfermée à lire, j'adorais ça. Bref, en tout cas, je ne lisais pas les auteurs contemporains. Et qu'est-ce que c'était des auteurs contemporains fin des années 70, 80, ceux dont on parlait, François Nourricier, j'ai jamais lu un livre de François Nourricier. Enfin, vous voyez, bon, tous ces auteurs qu'on lisait à l'époque.
Non, je vois pas, je connais pas son nom d'ailleurs.
Bah, vous connaissez pas son nom, bon, peu importe. Donc Solaire, c'est presque un auteur contemporain que je lis, mais complètement, c'est très rare que je lise un auteur dont un livre paraît. Et donc, je suis excitée par tout ce qu'il raconte, je trouve ça extrêmement intelligent, ça ouvre à la connaissance, parce qu'il y a énormément d'auteurs cités, ça ouvre sur des tas d'espaces géographiques, parce que le narrateur se déplace, je veux dire, de Paris à Venise, en passant par Jérusalem, New York, Florence, l'Italie, bon, il y a une musique, il n'y a pas d'intrigue. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un livre où le narrateur est dédoublé. Celui qui dit « je » dans le livre, en fait, est un journaliste américain qui vit à Paris catholique, qui s'appelle Will. Donc ça fait effectivement écho à William Shakespeare. Et en même temps à Will, qui est l'auxiliaire de la volonté en anglais, c'est assez curieux. Et il a un ami qui s'appelle S. Donc on a juste l'initiale. On se doute que c'est Solaire, puisqu'en fait Solaire, c'est l'auteur... Enfin, S, dans le livre, est l'auteur d'un livre qui s'appelle Comédie et qui fait évidemment écho à Paradis dans la mesure où il a été démonté un peu par la critique, qui c'est un livre illisible parce qu'il est déponctué, comme je vous l'ai dit. Bon, alors ce dédoublement du narrateur, c'est quelque chose d'extrêmement rusé parce que ça permet... le narrateur est en train d'écrire femme, en fait, dans le livre. Donc on est en train de lire l'histoire d'un homme qui est en train d'écrire femme, c'est-à-dire le livre qu'on est en train de lire et qui s'est dédoublé avec S... qui est cet auteur qui se moque de lui-même, évidemment, puisque Solaire l'écrit. Et donc, en fait, c'est un dispositif qui déjoue la critique qui est en train de s'instaurer à la fois contre Solaire à l'époque et qui, en même temps, déjoue la critique qui va se déployer contre le roman une fois qu'il sera paru. Donc, il y a une espèce de ruse et une sorte de guerre défensive, en fait. Alors ça, je vous le conceptualise maintenant, parce que c'est vrai qu'en parler a posteriori, maintenant que je connais toute l'œuvre de Solaire, puisque j'ai lu tous ses livres, que je l'ai connu personnellement, etc. Bon, j'en parle rétrospectivement. À l'époque, je ne sais pas si j'analyse tout ça, mais en tout cas, dans le dispositif du livre, du narrateur, de cette espèce d'ironie perpétuelle sur tout, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a une espèce d'esprit critique, l'idée de ne pas s'en laisser compter, de déjouer la question identitaire, de déjouer ce qu'il appelle tout ce qui ensemblise. Hein. D'ailleurs, dans l'archive, on l'a entendu, c'est-à-dire quand il dit « les femmes, elles ne doivent pas se laisser prendre dans les femmes, il y a des femmes ». La femme, ça n'existe pas.
Oui, tout ce
pas.
Qui ensemblise.
Voilà, c'est tout ça ce qui ensemblise. Alors, les partis, tout les syndicats, rassemble, les mouvements, alors que ça soit les femmes, mais de toute façon, il est loin
d'être... Les mythes, genre l'éternel féminin.
L'intelligentsia, etc. Alors, il est loin d'être question que des femmes dans femmes. Hein. C'est aussi ça qui est intéressant.
Oui, alors pourquoi il l'a appelé femme, selon vous ?
Parce qu'il pense que le monde appartient aux femmes. Et c'est évidemment la grande ce qu'on a retenu de ce livre. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a tellement retenu ça que tout le monde pense que c'est l'incipit du livre, alors que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que tout le monde pense maintenant, quand vous parlez de quelqu'un d'un peu cultivé de femme, il dit Ah bah oui, l'incipit de femme, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort, là-dessus, tout le monde ment. Or, ces trois petites phrases arrivent après un paragraphe qui est le début du livre. Mais ce n'est pas le début du livre. Mais tout le monde pense que c'est le début du livre. C'est assez symptomatique.
Non, le début du livre, c'est « Depuis le temps, il me semble que quelqu'un aurait pu oser. Je cherche, j'observe, j'écoute, j'ouvre des livres, je lis, je relis. Mais non, pas vraiment. Personne n'en parle, pas ouvertement en tout cas. Mots couverts, brume, nuage, allusion. Depuis tout ce temps, combien ? 2000 ans, 6000 ans, depuis qu'il y a des documents, etc. » C'est tout un paragraphe, effectivement. Et d'ailleurs, ça dit très vite quand même que ce livre, et moi j'ai été étonnée en le lisant, Cécile Guilbert, je ne le connaissais pas, vous me l'avez fait découvrir. Ça s'intitule « Femme », mais finalement, ce qui est presque plus intéressant, mais je ne sais pas si on peut séparer ces deux dimensions-là, la question des femmes et la question de l'écriture, c'est vraiment la question de l'écriture du roman. C'est vraiment génial, ce rapport à la lecture, ce rapport au dialogue, tout est à la fois écrit et réflexif. C'est-à-dire qu'on ne cesse de se questionner sur la forme que l'on est en train de lire. Cet écrivain, Will, qui est en train d'écrire le livre que nous avons entre les mains, ne cesse de se poser des questions, et je trouve que c'est plus intéressant, en fait, sur l'écriture.
Ben oui, en fait, c'est indissociable. Mais en fait, c'est un livre qui est composé... Alors, ça s'appelle roman. Tout le monde a parlé de roman, le gros roman de Solers, Femme. Mais qu'est-ce que c'est que ce roman ? Alors, peut-être que le roman peut absorber après tout, tout. Mm. Et c'est ça l'intérêt du roman, c'est qu'il peut absorber tous les genres. Mais en tout cas, bon, Solers intitule ça roman, mais en fait, c'est plus une chronique. Et c'est quand je dis que ça ressemble à Céline du point de vue de l'écriture, mais ça ressemble à Céline du point de vue de ce que fait Céline dans ses ouvrages tardifs. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une chronique. Il fait une chronique de ce qu'il vit. Il met en scène des personnages qu'il connaît, qui sont des personnages à clé. Ce qu'a fait Solers, il y a des chroniques. C'est une chronique qui est composée de scénettes. Tout d'un coup, on passe à un dialogue. Tout d'un coup, le narrateur fait des réflexions sur ses lectures, comme s'il pensait à haute voix dans un monologue intérieur. Et tout ça est enlevé par une vivacité formidable et une musicalité énorme, parce qu'il y a la musicalité du style et il y a la musicalité. En tout cas, ce que ça montre une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand même, j'ai fait de la philo et ça m'intéressait beaucoup, la philo. Je voulais faire des études de philo. C'est qu'en fait, c'est la littérature pense. Elle pense, alors Solers dirait mieux que la philo, en tout cas, elle pense, c'est-à-dire que c'est un instrument, comme vous dites, de réflexivité, et en fait, l'écriture se met en abîme aussi de ce qu'elle est capable de faire, et donc il y a une réflexion à la fois sur l'écriture, et aussi, l'écriture est un instrument de pensée, au même titre qu'on pense en philo avec des concepts, mais en littérature, on pense aussi avec des mots et des phrases. Et la logique, et la rhétorique, et tout ça.
Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez lu ce livre, Cécile Guilbert ? Vous avez 20 ans, vous étiez habituée à des classiques. D'ailleurs, dans la scolarité, en général, on a plutôt affaire à des classiques. La littérature contemporaine, on ne nous apprend pas vraiment à la lire, sauf à vivre dans un milieu avec des parents ou voilà, un entourage qui va lire la littérature contemporaine. On ne nous dit pas tout de suite, va acheter le dernier roman qui est sorti. On va dire, va acheter un Balzac, découvre Molière, La Fontaine. Vous, oui. Qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ce que ça change pour moi, c'est que je me dis, bon, bah, je suis quand même un peu informé de ce qui paraît dans mon époque. C'est quand même intéressant de s'intéresser à ce qui paraît dans son époque. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'enjoint à lire d'autres auteurs. Parce qu'en fait, ce qui est important dans ce livre, et ce qui était. Alors, évidemment, ça m'enjoint aussi à lire d'autres livres de Solers. Puisqu'il est si intelligent, si excitant, si vif, et puis qu'il dit des choses qui, moi, je trouve complètement. Complètement stupéfiante, ça me plaît beaucoup. Quand je lis par exemple dans Femme qui me dit « Ce qui me frappe d'abord, c'est mon absence de culpabilité. Je n'arrive pas à sentir la faute qu'il y aurait à satisfaire ses passions. » Bon, alors je me dis « Bon, formidable.
» Et pourquoi ça vous fait tant... Pourquoi ça vous stupéfait à ce point-là ?
Bah, peut-être que ça correspond aussi à mon tempérament. Je sais pas, je me sens quelque chose de... J'ai envie d'aller vers ça. Je trouve que c'est plutôt agréable de ne pas se sentir coupable. C'est une libération. C'est une ode à la liberté, parce que ce livre, c'est aussi une ode à la liberté. Parce que quand je dis que ça déjoue la question identitaire, c'est... Bon, par la suite, Solers va beaucoup théoriser cette histoire d'identité rapprochée multiple. C'est-à-dire qu'il est bondissant comme un écureuil. Il veut être assigné à rien. Et donc, il joue sur des tas de rôles. rôles. Je suis agent secret, je suis papiste, je suis maoïste, je suis écrivain, je suis libertin. Bon, vous voyez toutes ces identités. Je suis un personnage médiatique, etc., etc. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est pour finalement occuper des tas de positions et ne rester assigné à aucune. Parce qu'en fait, ils pensent que je n'est pas moi. Que je est toujours un autre, évidemment, dans l'écriture, mais ça, on le sait depuis longtemps. Mais aussi que, du point de vue social, de la surveillance qu'instaure la société, du point de vue... En plus, quand on vit à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dans un pays comme ça, où on est tous repérés, mis dans des cases, il essaye de déjouer ça. Il ne veut pas être assigné à ça. C'est aussi pour ça qu'il bouge géographiquement, il change de femme, etc.
Donc, vous découvrez ce texte, Cécile Guilbert, femme de Philippe Solers, et après, vous faites quoi? Vous continuez vos études? Vous décidez de lui écrire? Vous dites, ça va devenir mon éditeur?
Non, pas du tout, parce qu'à 20 ans, je ne suis pas du tout en état de me dire que je vais écrire. C'est-à-dire que j'ai très envie d'écrire depuis que je suis adolescente, mais je pense qu'être écrivain, c'est... D'abord, je ne sais pas du tout si j'en suis capable. Deuxièmement... Je dois faire des études parce que je me dis, même quand bien même je voudrais me mettre à écrire, je vais jamais en vivre. Il faut que je fasse des études pour avoir un boulot. Donc, je fais des études assez sérieuses. Voilà, je fais Sciences Po. Je fais un peu de philo après. Je ne vais me mettre à écrire que plus tard. Parce qu'en fait, plus tard, je vais me marier. Et mon mari Nicolas va me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, moi, je veux depuis toujours écrire. Donc, il me dira, écris. Donc, il m'aidera beaucoup pour que je me mette à écrire mon premier livre. Mais ça, c'est une autre histoire.
N'est pas Philippe Solers.
Non, c'est pas Philippe Solers, mais en tout cas, dès que j'écris mon premier livre, Solers, entre-temps, est devenu... Parce que moi j'ai publié mon premier livre en 1994, donc c'est, disons, 10 ans après Femme. Quand j'ai commencé à vouloir écrire et que j'ai écrit ce premier essai sur Saint-Simon, Philippe Solers, lui, en 83, il passe chez Gallimard, et puis il transforme la revue telle quelle qu'il avait au Seuil, en l'infini.
La collection qu'il a, donc.
Collection l'infini, et revue éponyme, comme on dit, donc revue l'infini. Et donc, il est en train de commencer à publier des jeunes auteurs dans les années 80 et 90. Et moi, quand j'écris, je me dis, je veux que ça soit Solers, mon éditeur.
Alors, comment vous faites?
Eh bien, j'envoie d'abord mon manuscrit chez Gallimard à un monsieur de chez Gallimard qui me répond une lettre très aimable. Et puis, mais qui ne me dit pas qu'il va tout de suite me publier. Il me dit, c'est très bien, mais vous pourriez un peu faire ci et tout ça.
Mais pas de refus, en tout cas.
Pas de refus. Et entre-temps, moi, il se trouve que j'avais fait un stage dans l'édition quand j'étais étudiante, dans les années 87. J'avais fait un stage dans le département de sciences humaines de Fayard, où je lisais des manuscrits, je corrigeais des épreuves, j'établissais des index. Où j'ai d'ailleurs établi l'index, alors ça, si personne ne le sait, mais de la destruction des Juifs d'Europe, de Raoul Hilberg, qui était un gros boulot de ce qu'on avait fait, nous les stagiaires, on avait établi l'index de ce gros livre. Et donc là, ce département de sciences humaines était dirigé par un monsieur formidable, un éditeur fantastique qui s'appelait Éric Vigne. Et Éric Vigne est passé par la suite chez Gallimard aussi, où il s'est mis à être éditeur d'essai. Et comme je connaissais Éric, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien passer mon manuscrit à Philippe Solers. Alors il me l'a passé. Et Solers m'a un jour téléphoné, un matin, je me souviens, je dormais. Et à l'époque, on n'avait pas de portable. Donc si vous voulez, j'ai un téléphone dans ma chambre, je décroche.
Un fixe, ouais.
Philippe Solers, là, je peux vous dire, réveil en fanfare.
Mais vous avez évidemment reconnu tout de suite sa voix.
Oui.
Il a une voix assez repérable.
Mais Solers, il parlait très vite, c'était vif, si vous voulez, c'est de la conversation. Vous aviez à peine le temps de répondre, qu'il vous disait, on se voit bientôt, la semaine prochaine, bam, il vous donnait un rendez-vous, et hop, c'était emballé, je vais vous publier, quoi.
Et quand vous l'avez rencontré, il n'y a pas quelque chose qui s'est fissuré?
Pas du tout. Il était très amusant, il avait beaucoup d'humour, il était drôle, il avait son film Cigarette, enfin, c'était Solers, quoi. Et donc, tout de suite, on se voyait même pas dans un bureau. Il vous emmenait tout de suite dans le café d'à côté. On prenait un café. Je me souviens, il descendait des bouteilles d'eau minérale, des cafés, il fumait. Et on parlait vite. Et il me disait, d'où vous venez, qui vous fréquentez. Et il voulait un peu tout savoir très vite. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'étais très heureuse parce qu'en fait, il a écrit la quatrième de couverture de mon premier essai.
Qui était donc sur Saint-Simon.
Qui était Saint-Simon ou l'encre de la subversion. À l'époque, il était sorti à la rentrée littéraire, parce qu'on s'en rend plus compte, mais il y a 30 ans de ça, quand vous sortiez un essai littéraire à la rentrée littéraire, et ça pouvait marcher, vous pouviez avoir des papiers. Enfin, vous voyez, tout n'était pas phagocyté par le roman. Et c'est ça aussi qui me plaisait avec Solers, c'est que finalement, cette histoire de genre, c'était pas très important, parce que, au même titre que Femme est un roman, mais qui est bourré de réflexions qui pourraient figurer dans un essai, vous pouvez aussi mettre en scène et c'est ce que j'ai fait dans mes essais par la suite, vous pouviez mettre en scène des dialogues, des situations imaginaires. Enfin, il y a une liberté totale, quoi. Et c'est du moment que ça pense, que ça swing, et qu'il y a un certain style, voilà.
On va tout de suite en écouter un extrait, Cécile Gilbert.
Je vous entends d'ici. Et les personnages ? Que sont devenus les personnages ? Que font-ils ? Où sont-ils ? Nous voulons les personnages, pas l'auteur. Les personnages égale ce qui leur arrive. La suite de la bande dessinée. Nous voulons un vrai roman. Mou, tumulte, sifflet, bâillement, patience. Insatiable lecteur, avide lectrice. Vous allez les retrouver bientôt, mais oui. Ah, vous voulez absolument être dans le récit, n'est-ce pas ? Dès que les personnages s'éclipsent un moment, vous avez peur d'être chassé du volume. Vous tenez à votre place, à votre couchette, à votre coussin imaginaire. Si le narrateur est trop seul, libre, vous perdez le fil. Vous avez peur qu'il vous laisse tomber, qu'il se retire dans son monastère, parti comme il est avec sa manie biblique, désillusionné comme on le voit. On ne saisit pas très bien comment il pourrait avoir encore des passions et des aventures. Et Flora, Kate, Bernadette, Boris, Robert, la présidente, et Diane, Isia, Lynn, Sid, et Deb, si sympathique. Et la baise alors.
Un extrait de Femme de Philippe Solaire, son roman paru chez Gallimard en 1983 que vous avez choisi d'évoquer, Cécile Gilbert. Et je précise, parce que vous riez beaucoup en écoutant ce texte, que c'est vous qui l'avez choisi. Alors pourquoi cet extrait en particulier ? Est-ce qu'il est révélateur de ce ton ? Et est-ce que d'ailleurs cette musique choisie par notre réalisateur Nicolas Berger illustre bien le côté un peu guiré et sautillant de ce texte ?
Oui, on peut dire ça, mais enfin bon, la diction devrait être plus enjouée, à mon avis, mais bon.
Ah bah, Nicolas Berger, voilà, notre réalisateur qui lit, en prend note, voilà.
Bon, je note que c'est difficile de choisir un extrait, parce que comme c'est un flow verbal, c'est difficile d'isoler. Mais j'ai choisi cet extrait parce qu'il présente deux enjeux qui sont majeurs dans Femmes, c'est-à-dire à la fois que ce n'est pas un roman avec une intrigue ou dont on suivrait comme ça les péripéties, et que donc ce n'est pas filmable. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que, certes, beaucoup de chefs-d'œuvre de la littérature peuvent être adaptés au cinéma, mais il y a aussi cette question de savoir que la littérature aussi, c'est peut-être une définition possible de dire qu'elle est inadaptable. On ne peut pas la mettre en script. Or, Solaire s'insurge déjà ou se moque d'une tendance qui ne fera que se renforcer par la suite et qui aujourd'hui bat son plein d'une façon violente, à savoir qu'on a l'impression que tous les romans qui s'écrivent aujourd'hui sont des sortes de prescripts de cinéma, de films, de séries, vous voyez. Et qu'en fait, le Graal pour un auteur aujourd'hui, c'est d'avoir son livre adapté. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il y a des problèmes économiques. Oui, d'accord, mais enfin, bon, il y a toujours eu des problèmes économiques pour les écrivains. Donc, cet extrait montre que ce livre échappera toujours au devenir scénario.
Parce que c'est plus... Effectivement, il y a une absence d'intrigue, mais c'est quoi ? Alors, ça ressemble à quoi ? Un journal ?
Parce que c'est du langage. Parce que c'est du langage pur, en fait. Ouais. Je dirais pas que c'est écrit dans une sorte de livre étrangère, comme disait Proust de tous les grands livres. Vous connaissez cette phrase. Bon, tous les grands livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Donc, évidemment, quand on lit du Proust, on se dit pas on va faire un film. Mais si, on peut quand même faire un film. C'est-à-dire qu'on peut prendre les personnages de la recherche et puis... Voilà. Mais c'est pas ça l'enjeu de la recherche, on le sait bien. Bon. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre les personnages qui sont dans ce roman
toutes
femme.
Les femmes qu'il cite, d'ailleurs.
D'abord, les femmes, les hommes... Et on pourrait effectivement faire des scénettes à Saint-Germain-des-Prés. Quel intérêt ? C'est pas du tout l'enjeu du livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cet extrait montre ça, que le livre est infilmable d'une certaine façon, que l'enjeu n'est pas là, l'enjeu est dans la langue. Mais il est aussi intéressant sur ce qu'il dit des personnages, puisqu'en fait, ce livre a été aussi décrié, discuté, il y a eu des polémiques, parce que c'est un livre avec des personnages à clé. Alors quand on dit que c'est un livre... Parfois, on dit que c'est un livre misogyne parce qu'il se moque des femmes, de certaines femmes, mais en même temps, il loue et il adore d'autres femmes. Hein.
Bon, on va y revenir sur cette dimension.
Mais par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, en fait, tout le monde se focalise sur les personnages masculins.
Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est le patriarcat dominant, j'en sais rien. En tout cas, on est focalisé sur les hommes, et les hommes, qui sont-ils ? Nous avons Boris, nous avons False, nous avons Verte, nous avons Lutz, qui sont des personnages fondamentaux de la... Alors, on peut dire de l'intelligentsia ou de la comédie intellectuelle parisienne.
Alors, pour les auditeurs, auditrices, je le dis, Verte, c'est Roland Barthes.
Oui.
False, c'est Jacques Lacan.
Oui.
Lutz, c'est Louis Althusser.
Oui.
Boris, je ne sais pas.
C'est Jean Edernalier.
Ah. Voilà.
Et donc, Jean Edernalier, c'est à la fois un rival, un bouffon. Il a, si vous voulez, bon, Solers lui reprochera, enfin, lui reprochera pas à lui, mais c'est vrai que si Solers a été envoyé pour faire la guerre d'Algérie, c'est à cause du père de Jean Edernalier qui était général, et donc il a toujours pensé qu'il y avait eu un complot du père de Jean Edernalier.
Oui, il est un peu paranoïaque là-dessus.
Oui, mais enfin, il a été quand même. Il devait aller faire la guerre d'Algérie, et finalement, il en a été dispensé parce qu'il était asthmatique, et surtout avec l'aide de Malraux qui l'a sorti de là. Bon, ça, c'est des petites histoires, si vous voulez.
Mais bah, ça fait partie de l'intelligentsia et des.
Oui.
Donc,
les personnages se sont. Alors, il y a des passages bouleversants dans ce livre, parce que par exemple. Comme il sort en 83, il évoque la mort de Barthes, avec qui Solers était extrêmement lié, extrêmement complice. Il y a des passages bouleversants sur la mort de Barthes, qu'il va voir à l'hôpital. Bon, False, Lacan, il y a une critique, et pourtant, il a toujours trouvé de l'intérêt à la fréquentation de Lacan. Enfin, vous voyez, mais en même temps, il y a aussi un côté, c'est l'histoire de dire que bon, tous ces grands Manitou, toutes ces grandes têtes de l'intelligentsia, bon, ont aussi leur côté humain trop humain, misérable. Il y a l'histoire d'Althusser qui a tué sa femme. Enfin, vous voyez, bon, il y a tout ça. Alors, vous...
Juste pour les auditeurs, auditrices, je cite ce petit passage justement sur False, donc sur Lacan. Les conférences. Ah, les conférences, on peut dire que là, False a créé un genre solennel, hermétique, logique, apocalyptique, comique, du grand art, oraison, péroraison, résonance. On en parlait en douce, en coulisses, on dînait ensemble à l'écart, comme des gens plutôt cultivés, puisqu'il n'y a plus personne. Il n'avait d'ailleurs pas très bon goût, sauf pour les antiquités qu'il achetait très cher par intermittence. Et ça, c'est un micro-passage sur plusieurs pages qui lui sont consacrées et après, sur lequel, figure à laquelle il revient après par la suite.
Et oui, parce que les gens allaient écouter les conférences de Lacan comme on allait à la messe, quoi. Et Lacan avait d'ailleurs une...
Alors, dans la réalité, c'est les séminaires, mais
oui,
en fait,
les
c'est
séminaires,
ça.
C'est ouais. Ça. Mais en fait, Lacan avait une diction très particulière, une façon d'improviser. Alors, Solaire s'en moque, mais en même temps, il n'était pas dénué d'admiration non plus. Enfin, de toute façon, tout est reversible et il n'y a pas d'univocité, si vous voulez, de la critique ou de la moquerie. Il y a une volonté de prendre en compte la totalité des personnages dans leur complexité aussi. C'est pour ça qu'en fait, on serait bien en mal de dire est-ce qu'il en pense du bien, est-ce qu'il en pense du mal. Parce qu'en fait, la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question, c'est de savoir si c'est vrai, s'il y a une véracité. Et en fait, la question, c'est aussi d'en rire.
Oui, c'est vrai que c'est drôle. Mais justement, on va revenir quand même au titre de ce livre, aux femmes, et il en cite dans cet extrait. Hein, Flora, Kate, Bernadette, la présidente Diane, Isia, Lynn, Sid, Deb, c'est Déborah. Donc on imagine, c'est sa femme. On imagine qu'on y voit Julia Kristeva, qui était la femme de Philippe Solers. Est-ce qu'on peut voir ce livre à propos des femmes, mais aussi sur l'intelligentsia que vous décrivez, Cécile Guilbert, comme un livre d'époque? C'est-à-dire, c'est une époque qui est très précise, c'est la fin des années 70, c'est le début des années 80. Il y a quelque chose de daté dans ces rapports de pouvoir, mais aussi dans les discours qui sont tenus sur les femmes, où on a cette galerie de personnages. Et effectivement, bah, en 2025, avoir un homme qui parle des femmes comme ça, c'est pas forcément insultant. Pas du tout. Mais bon, bah voilà, ça fait partie d'une littérature masculine qui parle des femmes et des aventures. Et ça nous semble un peu daté.
Alors moi, je trouve pas du tout, parce que justement, ce qui est passionnant de le relire aujourd'hui... Alors, c'est vrai qu'il faut situer le contexte, à savoir que au début des années 80, quand sort ce livre, il y a eu pendant les années 70 tout le mouvement des femmes. Le MLF, la lutte des femmes, la libération des femmes, la lutte pour l'avortement, la lutte pour... Voilà, pour disposer de son corps et de sa liberté, etc. Et aussi des revendications sur les salaires. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été très puissant, le mouvement des femmes, dans les années 70. Alors, Solers prend ça en compte. Mais c'est comme un auteur d'aujourd'hui qui prendra en compte le mouvement des femmes qui vient de se produire depuis 17 avec MeToo. Vous voyez, bon, simplement, on pivote. D'une certaine façon, ce livre, à partir du moment des femmes des années 70, est d'une certaine façon visionnaire sur ce qui va se passer par la suite. Mmh. Alors, la question n'est pas de dire « c'est un abominable livre misogyne », parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Il y a, Solaire, on l'a dit tout à l'heure, ne veut pas qu'on dise « les femmes, la femme ». Il n'y a pas de la femme en soi. Et ça, c'est contre l'idéalisation des surréalistes, par exemple. Mmh. La femme, l'avenir, la femme et l'avenir de l'homme, enfin, toute la rengaine aragonienne avec Elsa. Bon, tout ce troubadourisme, comme il dirait, il ne s'agit pas de dire « la femme ». Il y a des femmes.
Ou d'ailleurs, Boris, ce personnage, qui écrit un livre qui s'appellerait, et il se vante d'avoir trouvé le meilleur titre du monde, « L'éternel féminin ».
L'éternel féminin, parce qu'en fait, Boris est critiqué et on ironise sur lui dans « Femme », parce que Édernalier était un grand romantique. Hein. Mmh. Voilà, il y avait un romantisme de Jean Édernalier. Donc chez Solaire, s'il n'y a pas d'idéalisation pétrarchisante, troubadour, il n'y a pas la femme au sens des surréalistes ou de Jean Édernalier, il y a des femmes. Alors qui y a comme femme dans ce livre ? Mmh. Alors il y a Bernadette, qui est en fait un portrait transparent d'Antoinette Fouque, la patronne du MLF. Il y a Kate, qui est une révolutionnaire, une anarchiste espagnole qui ressemble un peu à Maria...
Ça, c'est Flora, je crois.
Oui, Flora, pardon.
Flora, l'intellectuelle espagnole, voilà. Militante. Et voilà, il y a trop de femmes,
Kate, super. Bon, il y a la présidente, qui est une femme politique, avec qui le narrateur a une aventure, d'ailleurs, furtive, assez amusante, qui pourrait être je ne sais pas qui, alors ça, honnêtement...
Ouais, vous n'avez pas trouvé.
Je ne sais pas, honnêtement, c'est difficile. On ne pourrait pas dire que c'est Marie-France Garraud ou Simone Veil, si vous voulez. Mais ça ressemblerait, parce que c'est ce genre de femme, si vous voulez. À la fois chic et en même temps très intelligente, qui connaît les rapports de pouvoir, etc. Et puis, il y a les maîtresses du narrateur. Et alors là, on a des musiciennes, Louise la clavecinis, on a Isia, la chinoise attachée d'ambassade, qui est insaisissable, qui passe de New York à Paris à un autre poste. Et puis, il y a surtout Sid, qui est une Anglaise qui vit à New York, avec son amie Lynn. Il y a une sorte de trio, à un moment érotique. Il y a beaucoup de scènes d'érotique dans ce livre.
Et c'est très précise.
Très précise, pas
obscène. On suit bien les mouvements de la langue de, de Solaire, enfin voilà. De Will, le narrateur.
C'est pas porno, mais limite. Enfin, c'est pas porno, mais c'est quand même assez cru. C'est pas du
tout... excitant.
Oui, c'est excitant. C'est des scènes érotiques de sexe.
La visée et l'excitation.
Tout à fait. Il y en a beaucoup et je pense que ça a contribué à... aussi au succès du livre, parce que c'était un best-seller, ce livre, quand même. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que ça a été un best-seller.
Mais par exemple, sur vous le dites, ça s'écrit à la fin des années 70, début des années 80. Il parle de ce complot féministe avec le femme, front d'autonomie matricielle, qui serait la section française du Woman, World Organization for Men Annihilation and for a New Natality, donc une organisation pour tuer, exterminer les hommes et penser et fonder une nouvelle natalité. Là, on a l'impression, et c'est vrai qu'en 2025, lire ce livre, effectivement avec MeToo en 2017, on a l'impression en fait qu'on a ce roman s'inscrit dans une tradition de la littérature masculine qui voit les hommes toujours comme des victimes d'un complot féministe.
En fait, bon, moi je ne partage pas complètement cette affaire puisque le livre est aussi cruel pour certains hommes que pour certaines femmes, mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire pourquoi ensembliser toutes les femmes ? En fait, ce qu'il raconte femmes, c'est la guerre des sexes, mais c'est l'éternelle guerre des sexes. Simplement, parfois vous avez des alliés, parfois vous avez des ennemis. Les femmes qui s'ensemblisent contre les hommes, c'est contre ça qu'ils luttent aussi. Vous voyez ? Mais la guerre des sexes, elle existe depuis toujours. Simplement, elle prend des modalités différentes. Et c'est un livre aussi qui critique la façon dont les femmes sont instrumentalisées. Parce que les problématiques sont différentes. Elles sont à la fois toujours les mêmes et en même temps différentes. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le début des années 80 ? Il ne faut jamais perdre de vue le contexte historique. C'est un moment quand même où les femmes... Où on arrive, si vous voulez, dans cette période comme ça de libéralisme, de ce qu'il appelle les gestions des surfaces imprimées. C'est-à-dire que bien avant les portables, les écrans, les ordinateurs massivement écrans, les magazines, la télévision, c'était déjà ça ce qu'il appelait les écrans, les surfaces imprimées. Et donc la culture des magazines, la façon dont le corps des femmes... Ce qu'a montré votre archive du début, quand il voudrait que les femmes ne se laissent pas instrumentaliser dans leur image... Mais qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui sur dans les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'elles font les femmes, les influenceuses, toutes ces femmes qui sont là, obsédées par leurs apparences ? Donc on a l'impression qu'il y a quand même un côté visionnaire de ce que vont devenir les femmes, de comment elles vont se laisser à la fois instrumentaliser par la marchandise et le capital, qui est complètement criant. Après qu'ils disent « le monde appartient aux femmes, là-dessus tout le monde ment », bah, et oui, parce qu'il revient, si vous voulez, sur la chaîne des générations. Et donc, il y a effectivement un côté provocateur. Effectivement, vous mettez quelqu'un au monde, vous mettez quelqu'un dans sa condition de mortalité. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'il y a aussi des dégagements sur la Vierge Marie, l'effet BVM, comme il appelle, bienheureuse Vierge Marie. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que...
L'effet BVM, c'est ça ?
Oui, l'effet BVM, bienheureuse Vierge Marie, parce qu'elle, elle trouve... Si vous voulez, elle fait rupture dans la chaîne de l'espèce, dans la mesure pour deux points. D'une part, parce qu'elle a été conçue et sans péché originel, et deuxièmement, parce que, comme vous le savez, l'Annonciation, elle est enfantée sans...
Sans.
Voilà.
Sans.
Et donc, il y a aussi toutes ces réflexions sur biblique, et puis bon, sur le catholicisme, une espèce de religion absurde, mais en même temps peut-être la moins absurde de toutes, et bon, qui est en plus accompagnée d'une profusion esthétique, de la contre-réforme. Après tout, c'est la religion qui a produit le plus bel art, en peinture, en sculpture, en architecture. Alors, il y a beaucoup de tout ça aussi dans Femmes. Mais tout l'univers solarcien est là, de toute façon.
Mais sur cette question de l'ensembliser, c'est ça que c'est votre terme, ce qui est frappant quand même dans le roman de Solaire, c'est que finalement, il est contre le fait de rassembler, de mettre dans un mouvement toutes les femmes, mais chacune des femmes, chacun des personnages féminins est un stéréotype. C'est-à-dire l'ambassadrice chinoise, la journaliste, la militante espagnole. C'est-à-dire que c'est lui-même qui les rassemble. C'est une galerie. Donc c'est lui qui fait ce mouvement-là. Alors que False, Lacan, Lutz, Althusser, ils existent individuellement.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je ne pense pas que les personnages féminins soient des stéréotypes. Louise, la claveciniste, en quoi est-elle un stéréotype ?
Il y a la musicienne, quoi.
Et ben quoi, la musicienne, il faut bien que les personnages d'un roman aient une position dans la société, un métier où... Sid, elle fait de la télévision... Et pourquoi pas, c'est une Anglaise à New York qui fait de la télévision, mais qui est libre, qui veut pas s'encombrer ni d'un mari ni d'enfant, parfait. Pourquoi pas, Isia, elle est beaucoup plus énigmatique, on sait pas trop qui elle est, c'est une attachée d'ambassade chinoise qui passe d'un poste à l'autre. Et pourquoi pas, mais je vois pas en quoi ce sont des stéréotypes, ce sont des femmes qui incarnent à la fois un métier, qui ont un espace géographique, des spécificités érotiques, qu'on pourrait développer, mais on n'a pas le temps, enfin...
Et après, c'est vrai qu'elles ont un chacun.
Et après Kate, par exemple, quand Kate, au début du livre, il dit Kate arrive avec son chapeau fantasy cow-boy, elle se prend maintenant pour une amazone, la tête farcie d'épopées femmes et refemmes. Nous, les femmes, on sent qu'elle y pense sans cesse, excitée, déprimée, terrorisée, maniaque. Bon, là, il y a effectivement un jeu, mais ce n'est pas non plus un cliché. Il essaye de cerner une psychologie, un mouvement mental chez tous ces personnages, il me semble.
Hommes comme femmes.
Oui. Et les hommes ne s'en tirent pas plus. Et je vais vous dire une chose, c'est que... Donc je peux faire un insert personnel, puisque ça m'a marqué, ce livre, c'est que, en tant que femme, mais je ne me suis jamais pensée en tant que femme, si vous voulez, dès mon adolescence, je me suis sentie un petit peu les deux sexes. Et peut-être parce que j'ai la voix grave, enfin, je ne sais pas, parce que je suis athlétique. Toujours est-il, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je ne me suis jamais sentie femme. Je n'aurais jamais dit, moi, les femmes, nous, les femmes. Jamais de ma vie, je ne l'ai jamais dit. Et par ailleurs, moi, j'ai été élevée dans une famille de matriarcat dominant, où il n'y avait que des femmes, une tante, une marraine, une grand-tante, une grand-mère, une mère divorcée. Bon, j'étais élevée par des femmes dans un gynécée avec une matriarche dominante. Je sais très bien ce que c'est le pouvoir des femmes. Je sais très bien ce qu'on dit dans les familles des hommes aussi. Donc si vous voulez, moi, ça ne m'a pas du tout choquée quand j'ai lu ça. Je me suis dit, c'est vrai, après tout, les hommes, ils sont bons parfois à banquer, ils sont bons parfois à... Vous voyez ? Parce qu'il y a aussi ça. Qui le dira, ça, des femmes qui épousent des hommes parce que c'est des papas, les femmes qui épousent des hommes parce qu'ils sont riches. Vous voyez, la vénalité qu'il peut y avoir dans le mariage, toutes ces dimensions-là, mais bien sûr qu'elles existent. Mais alors, les femmes, elles peuvent le dire ou pas ?
Est-ce que vous pensez parfois que tous les écrivains ne sont qu'un ?
Depuis toujours ? Depuis l'absence de commencement ?
Oui.
C'est une hypothèse sérieuse. En tout cas, ça expliquerait pourquoi ils s'observent tous avec tant de passion. Le langage revenant à l'un. À l'un ?
Oui.
Et eux, transitoires ? L'un seul, tout seul, hors existence, les frôlants, les soufflants, les colorants selon leurs limites. eux ne faisant que moduler, ponctuer.
Voilà, l'expiration, pas l'inspiration.
Ils ont tous fini par penser ça, plus ou moins. Qu'ils étaient le seul, que tout le reste était aphasique, jusqu'à ce qu'un autre pense la même chose d'eux un jour, tout en se sentant exactement identique, aux vêtements historiques près, et ainsi de suite. Je suis Balzac, je suis Cervantes.
Je suis Melville et Shakespeare.
Et nous sommes tous des ombres de je suis. Lequel n'est personne en particulier, ou pas seulement, ou de façon si invraisemblable que ce n'est pas la peine d'en parler.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de Femme de Philippe Solers, on est dans les dernières pages du roman, Cécile Gilbert, c'est ce dialogue entre Will et S, donc Will le narrateur qui est en train d'écrire le livre que nous lisons, S qui est un écrivain en double de Solers aussi, voilà, un écrivain contesté qui a écrit ce livre sans ponctuation, un petit peu moqué par le milieu littéraire, et cet extrait permet d'entendre cette dimension effectivement presque de connaissance que nous offre ce livre, même presque de théorie littéraire, et là, sur le statut de l'écrivain.
Oui, alors c'est quelque chose que Solers va beaucoup développer par la suite, hein, toute sa vie, cette affaire selon laquelle, cette hypothèse plutôt, pardon, selon laquelle il n'y aurait qu'un écrivain à travers l'histoire, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la première fois qu'il le formule, et en fait, je ne m'en souvenais plus, mais en relisant le livre pour les besoins de l'émission, je me suis dit, mais déjà dès 83, il a mis cette hypothèse selon laquelle il y aurait un écrivain, finalement, qui aurait plusieurs incarnations à travers l'histoire, qui serait Shakespeare, Cervantes, Melville, Proust, Céline, et qui en fait répéterait, en fonction de son époque, évidemment, du contexte, des mœurs, mais quelque chose d'une vérité fondamentale sur l'espèce, sur la société, sur la politique, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur le mensonge, la vérité. Enfin, vous voyez. Et c'est une hypothèse, après tout, qui est assez stimulante intellectuellement.
Qui est qu'une personne.
Ben, si vous voulez, c'est comme s'il y aurait une essence, hein, comme une essence qui aurait des avatars, comme disent les hindous, c'est-à-dire des incarnations à travers l'histoire. Mais après tout, que l'affaire de l'écrivain, du bon écrivain, de l'excellent écrivain, et encore mieux si c'est un écrivain génial, parce que tous les écrivains que nous avons cités là, Shakespeare, Cervantes, ce sont des génies, mais donc c'est de le concentrer le plus pur, si vous voulez. Mais en fait, n'aurait qu'une, diraient tous la même chose d'une certaine façon. Ils seraient des révélateurs d'une vérité sur l'espèce, la société, la politique, le rapport entre les sexes, les mœurs. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on trouve dans toutes les œuvres de ces auteurs, finalement? Un dévoilement de la comédie mondaine, sexuelle, sociale. Alors, c'est assez vertigineux, mais c'est assez excitant. Et alors, on se dit, bah oui, et c'est pour ça que c'est des classiques, finalement.
De nous offrir de la connaissance.
Mais pas seulement de la... Oui, de la connaissance.
Pas plus que de la connaissance, d'ailleurs.
Oui, de la connaissance, mais une révélation.
La vérité.
Une révélation. Mmh. Une révélation... oui, une révélation au sens presque au sens religieux, quoi. Alors, il ne faut pas non plus faire de la littérature une religion, et ça, il faut s'en garder aussi, parce que ça sera un piège. Mais il y a quelque chose de ça, d'une révélation qui courrait à travers les siècles. Et quand on dit que les classiques, c'est une certaine fraîcheur éternelle, irrépressible, hein, je crois que c'est Hemingway qui dit ça. Et ben, ça serait ça, en fait, cette éternelle fraîcheur irrépressible, ce qui ferait qu'on sera en terrain connu et que finalement, quand on lit des grands classiques, on a affaire à des gens qui sont plus vivants et qui vous parlent davantage que bien de vos contemporains. Moi, ça m'a toujours frappé.
Mais il y a deux choses, là, Cécile Gilbert. Il y a cette idée, d'abord, de la théorie, ou en tout cas de l'hypothèse de Philippe Solers, d'un seul écrivain. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, si on peut dire que c'est l'hypothèse de Philippe Solers. D'autres l'ont peut-être pensé ou envisagé avant lui. Ça, cette idée-là, en quoi elle vous marque, Cécile Gilbert? En quoi ça vous parle?
Bon, d'abord, pour répondre à votre interrogation, je n'ai jamais lu ailleurs que chez Solers cette hypothèse, voilà, un peu folle et en même temps qui pourrait tenir la route.
D'une essence qui réincarnerait en
C'est-à-dire, c'est l'idée. Enfin, cette idée que, finalement, tous les grands écrivains,
veulent être aussi seuls contre les autres, parce qu'il y a aussi une lutte. Il y a aussi une lutte. Quand vous regardez la lutte Céline Proust au XXe siècle, ça existe. Ce que Céline a dit de Proust, il pensait qu'il était le grand inventeur du style, mais il a quand même concédé qu'il y avait deux styles au XXe siècle, c'était lui et Proust. Bon, après, vous avez toujours quelqu'un qui arrive pour dire, et moi aussi, je suis là.
Oui. Paul c'est la Morand, compétition.
Paul Morand, voilà, qui voulait occuper le troisième rang. Bon, vous voyez, bon, on peut rire avec tout ça, mais cette idée, elle est importante et elle me marque parce qu'elle me dit, il faut effectivement continuer à lire ce que tu n'as pas lu. Et finalement, c'est une ouverture formidable sur la connaissance, un savoir, mais qui n'est pas la question d'être cultivé en ayant lu plein de livres, mais de véritablement comprendre que les livres... qu'il y a deux choses dans la vie fondamentales, qui est l'expérience individuelle, vivre sa vie, faire des expériences, des rencontres, être libre, aller vers vos passions, ce qui vous excite et ce qui vous fait plaisir. Donc ça, c'est quand même très important, c'est notre vie. Mais qu'à l'intérieur de cette vie, il y en a une qui est tout aussi vivante, qui est celle qui est la connaissance, parce que vous ne pourrez pas tout vivre de toute façon. Vous ne pourrez pas ni tout vivre, ni tout savoir par votre propre expérience. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez comprendre et savoir que dans les livres. Et puis, vous vous sentez moins seul parce que vous vous dites « Ah, ce que j'éprouve, d'autres l'ont éprouvé. Je vérifie que cette vérité que je pressens, vous êtes moins seul et vous avez une communauté, finalement, de d'amis dans les livres. »
Hélas, on ne peut pas tout lire non plus.
On ne peut pas tout lire non plus. Mais en fait, il y a aussi la question du goût. C'est-à-dire qu'en fait... je sais pas, il y a une certaine nervure des choses qui fait que qu'il y a une logique en fait dans ce que vous lisez. Vous n'allez pas prendre le grain pour livret. Vous voyez ce que je veux dire. Vous n'allez pas vous laisser abuser par des choses qui sont.
Mais c'est la deuxième chose.
La sous-marchandise littéraire.
C'est ce que j'allais vous dire. La deuxième chose que vous soulignez, Cécile Guilbert, c'est qu'effectivement la littérature serait un instrument de connaissance, un moyen de dévoilement de la vérité. Mais c'est une idée. C'est une idée qui est très forte, mais qu'on pourrait aussi contester. C'est-à-dire se dire, oui, mais ça, en fait, c'est pas la vérité, c'est un point de vue. C'est-à-dire que comment on est sûr que ce dévoilement soit celui de la vérité vraie ?
Ça, après, on expérimente aussi dans sa chair, la vérité ou le mensonge. Vous pouvez... Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas seulement la littérature. Peut-être me suis-je mal exprimé.
C'est vrai qu'on dit la littérature, comme on dit.
Mais en fait, ce que lit Solers dans ce livre, par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est fondamental que dans tout ce livre femme, il est énormément question de la Bible.
Oui, alors voilà.
De la Bible, et de l'Ancien Testament. Donc en fait, quand on parle de lire, il ne s'agit pas seulement de lire de la littérature, parce qu'aussi on peut lire de la littérature pour se distraire, s'amuser, je veux dire, la question n'est pas là. Et toute cette littérature de distraction, de divertissement a sa place dans la vie d'un homme ou d'une femme. Mais en fait, lire des livres, cet aspect de la connaissance, ce côté gnostique, vous savez, chez les gnostiques, on dit que les pneumatiques, c'est des êtres qui sont attirés par le savoir, parce qu'ils savent que la connaissance va les sauver. Va les désarimer et les libérer aussi du malin, du mal. Cette dimension-là, elle existe complètement dans Femme, parce qu'il est effectivement question beaucoup de la Bible, mais ça veut dire que vous pouvez aussi lire la Bhagavad Gita, que vous pouvez lire la mystique juive, et le narrateur ne s'en prive pas. Il parle aussi beaucoup des Juifs, parce que on n'a pas le temps d'en parler, ce livre est très riche, il y a tout un climat, il y a la guerre au Moyen-Orient, la guerre au Liban, Israël, l'antisémitisme, alors
un climat
ce qui continue
pas
aujourd'hui d'une certaine façon. Mais oui, c'est l'aspect visionnaire du livre, c'est-à-dire qu'en fait on va voir que tous ces paramètres ne vont cesser de se durcir. Et puis bon, avec l'invention de l'informatique, la gestion des surfaces imprimées va prendre une autre importance, etc. Mais en fait, tout est là déjà. Et donc, il y a une certaine vista prophétique, une sorte d'anticipation de ce qui va arriver, en beaucoup plus dur, 40 ans plus tard, puisque nous sommes 40 ans plus tard.
Est-ce que, malgré l'absence d'intrigue de ce livre, sa forme étonnante et même scandaleuse quand il est paru, n'empêche pas quand même une progression dans le texte ? C'est-à-dire qu'il y a ce mélange que vous décrivez très bien, Cécile Guilbert, entre la vie de Will, ses discussions avec S qu'on vient d'entendre, les rencontres amoureuses, sexuelles, ses virées à New York, à Venise, à Jérusalem. Mais est-ce que malgré ce mélange, ses considérations sur la religion, sur Madame Bovary, j'adore ce passage, il imagine Emma Bovary en 1983, est-ce que malgré ça, cette diversité, il y a quand même un fil et une évolution l'évolution du personnage qui serait celle peut-être d'un apprentissage de l'écriture, un apprentissage sur soi, un apprentissage du milieu dans lequel il évolue.
Bah, je pense que forcément, quand Sellers a écrit ça, il a appris beaucoup de choses en écrivant ce livre. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment une évolution. Mais simplement, il y a une espèce d'artifice, on peut le dire quand même, de l'intrigue à un moment, puisque vers la fin du livre, en fait, le narrateur, Will, est avec sa maîtresse Sid, et une bombe explose qui va tuer Sid. Donc, voilà.
La
terrorisme. Donc là, bon, il se passe quelque chose qui concerne les deux personnages importants du livre. Et bon, on se dit, alors Sid, en plus, on découvre post-mortem que Sid était enceinte. Ah, là, c'était un sacré os, hein. Mais bon, elle meurt. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment de. Je trouve que là, c'est même un peu. Si je voulais faire une critique, je trouve que c'est même un peu artificiel et un peu. Bon.
Sellers met quelque chose pour l'intrigue, pour finir. Peut-être qu'il n'arrive pas à finir, parce qu'en fait, ça pourrait être
un livre infini, absolument.
C'est-à-dire que ça ressemble à un journal, à un flux de conscience. Il pourrait ne jamais écrire son livre, ne faire que l'écrire, parce que c'est un journal.
Ben oui, alors c'est ça qui est intéressant aussi au point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, quand Sellers a publié Paradis, je reviens sur cette question parce que c'est très important, quand on a pensé que Femme était une rupture par rapport à Paradis, pas du tout. En fait, Femme reprend absolument des thèmes qui sont déjà dans Paradis, et il se trouve qu'à l'époque, Sellers voulait écrire Paradis continuellement. En fait, et d'ailleurs, il publiera dans les années 80, bien plus tard, Paradis 2. Mais en fait, le projet dans lequel il s'était lancé aurait pu être ce projet infini dont vous parlez pour Femme, qu'il a interrompu parce qu'en fait, il était dans une trop grande solitude et Paradis, c'était un livre quand même assez problématique dans sa réception et que c'était une sorte d'impasse pour lui. Donc, il a repris ses propres thèmes, il les a recyclés et mis autrement dans Femme, et après, il va faire tous les romans qu'il veut faire. Il va faire Paradis 2, mais il va, d'une certaine façon, arrêter le processus Paradis. Mais de toute façon, peu importe que ce soit Paradis ou Femme, puisque de toute façon, c'est effectivement ce flux perpétuel où il s'agit pour un narrateur d'être informé des affaires de son temps. Ça, c'est très important. Sellers, c'était quelqu'un de complètement branché sur les informations, l'actualité. Parce qu'il s'agit de révéler le dessous des choses. Il ne s'agit pas de vivre ailleurs que dans son temps. Puisqu'après tout, on peut critiquer son temps, mais c'est le temps où on est vivant. Donc on l'aime, c'est le temps où on est vivant. Vous voyez, il n'y a même pas cette espèce de dégoût de l'époque. Parce qu'en fait, ça, c'est très amusant aussi pour aujourd'hui, où tous les gens sont là à se plaindre en disant « Ah, on vit une époque terrible, c'est le chaos.
Bon, » On devait dire la même chose dans les années 80,
c'était mieux avant. Alors, il y a toute cette nostalgie des années 70, la revue Schnock. Moi, j'adore la revue Schnock, c'est très drôle. Mais vous voyez, tout ce climat, les 30 glorieuses, c'est une rengaine qu'on entend du matin au soir aujourd'hui. Mais personne ne se dit « Mais attendez, l'époque est formidable, parce que c'est l'époque où je suis vivant aujourd'hui. » On ne semble pas, en fait. Donc, on a affaire peut-être à des morts vivants. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant d'essayer de dégager toujours de la liberté et de la singularité dans une époque aussi de grégarisme et de chaos qui est la nôtre, quoi. Il s'agit de continuer. La lutte continue.
Déjà quand j'étais moutard, rempli de malice, je refusais furibard le sein de ma nourrice. Oh quelle horreur, ça sentait le beurre, j'aimais mieux le précepteur. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes ? Henri, 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 c'est pas gentil, c'est qu'elles font trop de drames et de chichi, elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil. On s'amuse tellement plus quand on est entre hommes. Tous les plaisirs de Vénus, moi cela m'assomme. A priori, j'aime quand on rit avec des bons amis. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drames et de chichi, elles font aussi des petits. Et pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables? Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 t'es pas gentil.
Cette chanson, Cécile Guilbert, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, donc Femme de Philippe Solers, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas du tout à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, c'est pas un auteur que je n'aime pas, parce que c'est un auteur voilà, qui est intelligent. Alors, c'est un livre que je n'ai jamais réussi à lire, j'ai fait plusieurs tentatives, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil, qui est considéré comme un grand livre voilà, de la modernité littéraire du XXe siècle, extrêmement imposant par son volume, 1800 pages. Alors certains humoristes disent que c'est tellement ennuyeux qu'il ne l'a pas fini, qu'il s'est ennuyé lui-même. Et c'est vrai que c'est un livre inachevé. Est-ce que c'était un livre achevable ? J'en sais rien. Toujours est-il que quand on rentre dans ce livre, qui est très intelligent, qui est assez stimulant, au début on rentre facilement dans... Je sais pas, très vite en fait... L'intellectualisme de ce livre, la complexité des raisonnements très intellectuels qu'il y a dans ces phrases, qui sont quand même assez longues, parce qu'il y a quand même un côté... c'est pas un style vif et nerveux, hein, c'est un style avec des périodes développées, etc. Ben, je sais pas, au bout d'un moment, on n'arrive pas, parce que c'est pas non plus un livre avec une intrigue non plus, c'est pas que ça... si vous voulez, c'est très intéressant.
Il y a quoi ? Il y a une vingtaine de personnages, il y a autant d'intrigues.
Il y a Ulrich, l'homme sans qualité, donc, qui est cet être qui analyse tout, qui est comme ça sur la crête des choses, qui se décide pour rien. Il est tellement intelligent, en fait, qu'il peut prendre le parti de rien. Il y a Arnheim, l'industriel, il y a, bon, la maîtresse d'Ulrich, il y a une femme qui tient salon à Vienne. Bon, tout ça se passe dans la modernité viennoise. Bon, c'est l'histoire de la décomposition de l'Empire austro-hongrois, puisque en fait Ulrich est chargé d'un comité pour célébrer en 1913 l'empereur. Et donc on se dit, en fait, c'est un livre qui s'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé pour que la modernité viennoise de la fin du 19e siècle, si brillante, qui a inventé tant de choses en musique, en philo, en architecture, Freud, etc., devienne la Cacanie, c'est-à-dire ce pays. Cacanie, ça vient de deux termes allemands, impérial et royal, je crois. Qui ça fait caca en même temps, vous voyez, il y a ce truc. Hein, et en fait, moi, j'ai jamais réussi à accrocher. Et j'en ai souvent parlé avec des gens qui trouvaient que c'était le parangon du roman, tellement intelligent et tellement... moi, j'ai jamais... Alors, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, je bute, j'arrive même pas à la fin du premier tome, il y en a deux. Le deuxième est encore plus gros, je trouve.
Ah, quand même, vous avancez, parce que là, vous avez quand même une certaine connaissance des personnages.
Mais
comme quoi l'argument intellectuel ne suffit pas à avoir un plaisir de lecture. Ça, c'est important, parce que vous le dites, c'est une sorte qui vous comprenez l'enjeu, l'intention, vous dites que c'est un écrivain intelligent, voilà.
Je me suis rendu compte, en fait, en venant à cette émission, j'avais pas fait le rapprochement, c'est que... Après tout, pourquoi pas faire un rapprochement avec Femme, dans la mesure où c'est un livre qui n'a pas d'intrigue non plus, qui a des scénettes et qui a des espèces de flashs et qui n'a pas une intrigue proprement dite. Simplement, il y en a un qui swing comme un fou par son humour, son ironie. Alors, il y a beaucoup d'ironie chez Musil, mais c'est une espèce d'ironie un petit peu froide et très, très cérébrale, en fait. Mais il n'y a pas de musique, voilà. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de scansion. C'est trop intellectuel. Il n'y a pas d'humour, voilà. Il n'y a pas d'humour. Pas assez, il y a de l'ironie fine, beaucoup d'intelligence, mais il n'y a pas d'humour. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué, je sais plus où j'ai lu ça, que Thomas Mann disait que c'était un livre étincelant. Mais en fait, bizarrement, moi, j'ai jamais pu lire Thomas Mann non plus. Je trouve aussi qu'il me tombe des mains, les Buddenbrook, La Montagne Magique, tout ça me tombe des mains aussi. Donc, si vous voulez, j'ai un problème avec ce genre de gros roman.
Et sans humour.
Didactique, en fait.
Voilà. Merci beaucoup, Cécile Guilbert. De vous, on peut lire votre texte paru dans l'ouvrage collectif « Comment écrivent les écrivains » sous la direction de Blinda Cannon. C'est aux éditions Thierry Marchez. « Roue libre chronique » paru aux éditions Flammarion et en poche. Je cite également encore votre anthologie « Écrit stupéfiant, drogue et littérature de Homer à Will Self ». C'est disponible aux éditions Robert Laffont. Et pour lire « Femme » de Philippe Solers, le livre est disponible aux éditions Gallimard. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Grégory Wallon à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.